Radioscopie, Hubert Nissen, Jacques Chancel. Hubert Nissen, je vous ai connu fou de publicité, je vous retrouve affamé de littérature et je dois dire que vous avez traversé des multitudes de champs, mais tous ont un commun dénominateur et vous le concevez ainsi. Ce dénominateur, c'est le langage ou, pour parler vrai, la communication. Ce sont les voies de l'écriture qui conduisent à la conversation, donc nous voici ensemble. Et je crois qu'il est bon de bien préciser ce que vous êtes. Vous avez quitté les grandes villes pour vivre la création, et vous l'avez fait près de la terre. Vous êtes en Provence, où vous animez les éditions Actes Sud. Alors on peut se demander, vous qui étiez au commencement belge, installé à Bruxelles, pourquoi il y a eu cette fuite, et quelle était la nécessité de la fuite ?
Eh bien, c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse nette et simple. Et il y a eu au départ certainement une très grande pression psychologique exercée par des grands-parents et en particulier par une grand-mère qui était une Française, elle était tourangelle, et elle me parlait de son pays dans des termes qui me paraîtraient peut-être fort quelconques si je les entendais aujourd'hui, mais qui dans l'enfance me paraissaient particulièrement pathétiques, de telle sorte qu'elle a réussi, de manière quasiment diabolique, à me donner une mentalité d'exilé. Donc j'ai répondu d'une certaine manière, les années passant, à cet appel qu'elle avait lancé la première. Autre chose est que j'ai changé de lieu quand je changeais d'activité. Et ma nomadisation s'est toujours pratiquée vers le sud. Je suis toujours allé un peu plus loin. J'ai commencé par descendre sur Paris, ou en tout cas m'y trouver très souvent. Et puis enfin, je me suis établi en Provence. Alors là, c'est le lieu d'un malentendu.
Alors on peut se demander également s'il y a une telle différence entre l'homme que vous étiez à Bruxelles, belge, et le français que vous êtes devenu installé en France. Alors que vraiment, ce sont deux pays qui n'ont même pas de frontières, ou si peu.
Mais s'il y a des différences, je laisse aux autres le soin de les percevoir. Pour moi, je ne dirais pas qu'il y a une continuité absolue, car comme tout homme, j'ai connu des difficultés, j'ai changé de route à certains moments et parfois de manière imprévisible. Mais il me semble tout de même qu'au départ, il y a un élan auquel j'ai tenté d'être fidèle. Et cet élan, vous y avez fait allusion en parlant des problèmes de langage et de communication. C'est vraiment le sujet de ma fascination depuis le commencement.
Alors, changer de route, est-ce vraiment là la nécessité ? Parce que je crois que tous ces champs que vous avez traversés sont très différents les uns des autres et peut-être en un même cœur. Il y a eu le spectacle, car vous avez été un homme de spectacle, vous avez même fait du théâtre.
En tant qu'organisateur, je ne suis pas monté sur les planches.
Il y a eu la publicité, et je crois que vous étiez quand même inventé pour la publicité. On la retrouve un peu dans l'édition, puisque c'est sa continuité.
Il y a les problèmes de forme et de langage, ce sont toujours les mêmes problèmes qu'on trouve. Au fond, quand vous évoquez la nécessité du changement, je dirais que c'est un peu un problème de navigation. C'est maintenir le cap, mais quel cap ? Pas le cap qui pourrait être défini par des aspects extérieurs, c'est le cap intérieur qu'il faut maintenir. Arriver à affiner un certain type d'interrogation, car finalement, je ne me suis pas fixé comme ça un but très concret, très descriptible, dont je me sentirais les années venant peu à peu approcher. J'ai toujours considéré que le sens de la vie était le sens même de l'interrogation. Et quand il m'est arrivé de changer de cap ou de changer de direction, conservant le même cap, c'est plus exact, c'est parce qu'il me semblait qu'ainsi j'affinerais davantage les interrogations fondamentales qui n'ont pas cessé de m'intéresser, de me passionner.
Dès le départ, Hubert Nissen, vous saviez très parfaitement ce que vous souhaitiez faire.
Pas dans les faits. Je savais que je voulais aller vers les autres, je savais que je voulais communiquer d'une certaine manière et j'avais un appétit très certain pour toutes les formes écrites. J'étais, je crois, dès la plus tendre enfance, un lecteur considérable, j'entends par la quantité de choses lues, mais je n'avais pas une idée précise de ce que je voulais faire. Et je vous demanderai d'ailleurs de vous souvenir que tout de même, en pleine adolescence, il y a eu la guerre et que ça a mis fin à bien des projets, ça en a changé d'autres. Il était très difficile de se faire une idée précise de ce qu'on pouvait faire à ce moment-là.
Mais l'idée vraie, c'était tout de même la maison d'édition, ce qui permet quand même à d'autres, peut-être, d'exercer leur talent de communication.
Oui, je dirais que
c'était l'écriture.
C'était le livre. C'était le livre avec ses deux aspects, en écrire et en publier.
Alors, il y a le fait de s'installer en province. Et je dois dire tout de suite, l'homme que vous êtes. Et je crois qu'on le raconte très vite, parce que vous avez une gazette qui vous permet de dire un peu ce que vous pensez des livres des autres. Cela s'appelle la Gazette du lecteur. Et comme, en début d'année, vous demandez parfois à ceux qui sont vos abonnés de se réabonner parce que cela fait partie de votre trésorerie, vous leur dites que vraiment vous avez très très peu de moyens et vous ajoutez, il vous faut vraiment vous réabonner parce que telle est la seule ressource d'une gazette qui est publiée sans aucune assistance et dont les deux chroniqueurs achètent la plupart des livres auxquels ils consacrent un commentaire. Je veux dire, c'est assez formidable d'abord d'éditer une gazette, ensuite de commenter, de faire aimer les livres des autres, et pour cela, d'acheter les livres.
Je crois que c'est absolument indispensable. Bon, je vous dirais que depuis qu'elle existe, il arrive que des éditeurs nous envoient des livres et nous ne les leur renvoyons pas, bien entendu. Mais cette gazette qui est faite par deux personnes est avant tout une tentative de porter au niveau de l'écrit, au niveau d'une publication, donc de la Gazette du lecteur, une manière de commenter les livres que l'on dirait en général réservé aux conversations entre amis. On se rencontre, j'ai bien aimé un livre, j'ai envie de vous convaincre de le lire, je vais employer un certain langage qui n'est pas le langage de la critique. Et pourquoi ? Alors ça, c'est la tentative de faire une chose qui semble n'avoir pas souvent été faite, c'est d'utiliser une forme de langage critique qui ne tienne compte ni des courants ni des marées et qui s'adresse par les voies les plus directes à ce qu'il peut y avoir de plus sensible chez le prochain lecteur.
Alors, installer une maison d'édition en province, est-ce une aventure lorsqu'on ne bénéficie pas d'une antériorité ? Je sais que dans beaucoup de villes de France, il y a des maisons d'édition et vraiment qui tiennent très bien le coup et depuis très 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 longtemps. Mais vous avez préféré, plutôt que de vous installer à Paris, jouer le charme de la province et de monter là-bas une édition. Et je suis persuadé, j'en connais d'autres, que la chose est possible et que cette aventure est belle et qu'il faut la tenter.
Certainement. Certainement, elle est belle, mais
elle est difficile.
Elle est difficile parce que d'abord, elle vous entraîne dans des stéréotypes. Le fait d'être en province, et peut-être davantage encore en province, a l'air de vous mettre d'emblée en opposition avec Paris. Et c'est un procès d'intention qu'on me fait souvent et que je déteste particulièrement. Je ne suis pas du tout hostile à ce qui se fait à Paris. Simplement, je crois que la France souffre d'un manque de décentralisation au point de vue intellectuel et que c'est un peu sot, finalement, de penser que tout doit nécessairement passer par Paris pour exister. Encore faut-il dire que ce langage, je le tiens plus volontiers aux provinciaux qu'aux parisiens, parce que les provinciaux sont les premiers qu'il faut convaincre de cette situation, eux qui n'achètent de livres que quand les journaux de Paris les leur recommandent et ignorent les critiques quelquefois très intelligentes qui sont faites dans les journaux de province. Bon, donc il y a d'abord cette nécessité de se dégager de ce stéréotype dont on vous accable. Ensuite, il y a le problème des distances, c'est incontestable. Et enfin, il faut dire qu'il y a un certain nombre de genres littéraires ou de publications qu'il est très difficile de faire loin de Paris parce qu'existe à Paris toute une intendance, toute une série de canaux, de contacts, de possibilités de diffusion de l'information qu'on ne trouve pas en province. En revanche, la vie qu'on peut y mener professionnellement est infiniment moins éreintante. C'est certain qu'on peut réfléchir ces problèmes sans être constamment menacé par le téléphone, les déplacements, sans perdre un temps considérable dans tous ces joujoux style métro, taxi, etc.
Hubert Nissen, j'ai noté ce que vous disiez. Je tiens pour certain que les hommes ne possèdent en propre ni les mots ni les choses. Que voulez-vous dire très précisément ?
Eh bien ça, c'est le cap, c'est l'interrogation centrale de ma vie. J'ai toujours été très frappé que les démonstrations que l'on cherche à faire dans la vie sont des démonstrations de caractère un peu sophistique, comme ça. On cherche à démontrer la justesse des mots par l'existence des choses, mais quand on demande quelle démonstration apporter au sujet des choses, c'est par le mot qu'on essaye de démontrer la chose. Alors, les gens utilisent des mots qu'il croit en rapport certain avec les choses et se trouve très souvent à des distances considérables des choses. Je pense qu'il y a un drame permanent qui se joue parce que les mots et les choses ne coïncident jamais tout à fait. Or, ça concerne aussi bien notre existence, notre philosophie, que, et ce n'est pas la moindre des choses, nos rapports humains. Et il est certain que les mots les plus simples qui sont utilisés pour désigner les événements très souvent nous portent à avoir sur ces événements des opinions qui sont en porte-à-faux parce que le mot était en porte-à-faux par rapport à l'événement.
Alors vous avez, comme nous le disions tout à l'heure, traversé différents champs. Je me demande sur quelle terre vous vous sentez bien, parce que nous allons parler tout à l'heure du roman, de la littérature, parce que vous êtes également romancier, et je pense à votre dernier roman, La mer traversée, mais vous êtes également celui qui fait écrire les autres. Et alors là, il y a comme une ambiguïté aussi, parce qu'on ne sait plus si on s'occupe de soi-même, si on s'occupe des autres. Vous vouliez être un écrivain connu ou un éditeur connu ? Disons reconnu, parce que connu.
Enfin, ça fait un peu idiot de nier que j'ai voulu être l'un ou l'autre, oui. Mais je crois très sincèrement que ce que je voudrais, parce que c'est pas fini, ce que je voudrais, c'est faire les meilleurs livres possibles, d'un côté, et d'un autre côté aussi faire les meilleurs livres possibles, mais ceux des autres. Et un désir d'aller toujours un peu plus loin. Alors bien sûr, j'aimerais bien avoir de très nombreux lecteurs, mais je veux dire que le souci d'achever le livre, de le pousser, de pousser l'interrogation du livre aussi loin que possible, est beaucoup plus importante que le problème de l'accueil numérique. Et cela est valable aussi bien pour les livres que j'écris que pour les livres que je publie.
Mais est-ce que vous avez vraiment l'impression que les médias, puisqu'on les appelle ainsi aujourd'hui, la radio, la télévision, la presse, est très souvent préoccupée des mêmes gens? C'est-à-dire qu'elle s'occupe plus volontiers de ceux qui sont en pleine lumière et oublie certains qui travaillent non pas dans l'ombre, mais dans un anonymat qu'ils ont parfois souhaité.
Oui, mais
pour leur tranquillité.
Mais je pense que c'est parfaitement normal. On peut quelquefois leur en faire grief quand c'est injuste.
Ah, vous en faites grief, vous, souvent
Pour les livres des autres.
Oui.
Pour les livres des autres.
Je
ne parle pas de...
Non, d'accord.
Pour les livres des autres, c'est vrai. Il m'est arrivé d'être irrité qu'on ne reconnaisse pas la qualité de tel ou tel ouvrage. Mais je suis capable de me mettre dans la peau des autres, c'est-à-dire des médias, dont le problème aujourd'hui est absolument inextricable. Enfin, étant éditeur, je suis au courant du débit du dépôt légal. Chaque livre qui se paraît en France doit passer au dépôt légal. Bon, on a atteint pas loin de 30 000 titres l'année dernière.
C'est beaucoup trop.
30 000 titres, pourquoi faire grief à certaines gens de ne pas parler de tous ces titres? En revanche, je suis très méfiant à l'égard d'un certain nombre de combines, de systèmes, d'arrangements qui se font et où l'on voit que les mêmes personnes tiennent en main à la fois la production des ouvrages, leur analyse, leur critique, leur diffusion commerciale, parce qu'alors on a un peu l'impression que ces réseaux-là exercent leur activité au détriment d'autres ouvrages de grande valeur.
Et à ce moment-là, vous dites même que c'est de l'escroquerie.
Ça touche à l'escroquerie, je crois, quand finalement il n'y a pas un jugement objectif qui a été porté, ou un jugement libre qui a été porté sur les ouvrages, quand on sent que les commentaires sont nettement inspirés par une programmation très précisément mise en place.
Alors, pour en arriver à l'édition, vous êtes passé, comme je le disais tout à l'heure, par l'animation, la publicité, le spectacle, les voyages, l'enseignement, la formation, la cartographie, l'édition et l'écriture.
Et tout ça, c'est encore les rapports entre les mots et les choses.
Et c'est la même chose. Mais vous souhaitiez tout cela?
Ça correspond.
Vous avez fait quelles études au départ?
Littéraire, philologie. Que je n'ai pas terminé, d'ailleurs.
Mais pour être professeur, pour...
C'était ma première intention. Je voulais être professeur, et puis les événements m'ont décidé autrement, entre autres du fait de la guerre. Et nous touchons là, à nouveau, ce problème que nous avons abordé au début, c'est celui du cap. Finalement, toutes ces occupations n'ont été que des mises au point d'une sorte de pulsion centrale que j'ai toujours suivie.
Vous cherchez.
Et qui était cet échange, cette communication, cette possibilité d'exploiter au maximum toutes les richesses, toutes les ressources de l'écrit. C'était ça, ma préoccupation.
Et alors, je vous connais, nous ne sommes pas rencontrés depuis très très longtemps, et je vois que dans cette absence, il y a eu vraiment une présence sur le plan de l'écriture tout à fait exceptionnelle. Le nombre de volumes écrits par vous, Et ensuite, le nombre de volumes écrits par les autres. Et là aussi, c'était comme une sorte de nécessité. C'est une source chez vous.
Oui, c'est une...
Alors, est-ce que vous n'écrivez pas trop ?
Non, je ne crois pas que j'écris trop, parce que, certes, il y a un grand nombre de volumes, mais vous remarquerez que ce ne sont jamais de très gros volumes. Il y a notamment de nombreux volumes de poésie, et je pense que si vous faisiez le compte en nombre de pages, par comparaison
non,
d'autres,
je n'ai rien,
pas...
Hein,
non, mais je n'ai pas trop écrit. D'autre part, compte tenu de la part que ça prend dans ma vie, je ne pense pas que c'est excessif. Mais ce que je voulais vous dire, parce que ce ne serait pas honnête de laisser la conversation s'engager sur un malentendu, c'est que je n'avais pas vraiment prévu d'être éditeur comme je le suis aujourd'hui, et que cette découverte s'est faite tout à fait fortuitement, ou plus exactement cette possibilité s'est faite tout à fait accidentellement, mais depuis qu'elle est advenue, je connais un plaisir, une joie que je ne soupçonnais pas, parce que finalement je m'aperçois, et je vous prie de croire à ma totale sincérité quand je vous dis cela, que j'éprouve autant, sinon plus, de joie à publier le livre d'un autre qu'à voir publier le mien. Ça, parfaitement. Et le fait d'être moi-même édité, oui, d'être moi-même écrivain, oui, me donne mieux conscience des exigences qu'un auteur est en droit d'avoir vis-à-vis de son éditeur ou de ceux qu'il défend. Je me rends mieux compte, souffrant moi-même ou éprouvant de la satisfaction selon le sort qui est le mien quand un de mes livres paraît, je prends mieux conscience de ce qu'il faut faire pour les autres. Et alors, quand je sors un livre, j'éprouve à remplir ses devoirs, à aller au-devant de ses exigences, un plaisir quasiment indescriptible,
mais
très profond.
Vous pourriez être éditeur à Paris ?
Oh, je crois que je pourrais être éditeur à Paris. Il se poserait des questions, si vous voulez. J'ai pas le tempérament. Je suis pas un homme des villes. Il m'est arrivé de vivre dans les villes. J'y ai toujours été malheureux. J'aime Paris et je hais Paris. Il faut que je quitte Paris pour pouvoir revenir à Paris. Et c'est un contrepoint incessant. Alors, bon, de ce point de vue-là, ça me serait très difficile. Je crois que j'éprouverais beaucoup de difficultés à m'accoutumer à toutes les rencontres qui se font à Paris. Mais enfin, ça me paraît pas du tout insurmontable. C'est pas du tout un obstacle. Je suis devenu éditeur en province parce que j'ai eu l'opportunité de devenir éditeur et de répondre ainsi à un vieux désir, alors que j'étais installé en province.
Mais ne pas marquer une édition de son nom, c'est être humble, modeste, ou au contraire fuir la responsabilité. Vous auriez pu indiquer édition Hubernissen,
non, alors
Acte Sud.
Alors de toute façon, oui, écrivant, je ne voulais pas mettre mon nom aux éditions, parce que je trouve, enfin, il y a des exemples, mais ça ne me plaît pas tellement.
Il y a pas mal d'exemples.
Il y a pas mal d'exemples, mais si vous voulez, il y a des noms dont on a perdu un peu le contact. Même un homme comme Lafon, par exemple, les éditions Lafon, c'est pas la même chose. Mais une nouvelle maison d'édition qui naît et qui prend le nom de son animateur, lequel en même temps publie des livres, je trouve pas ça très... Non, je ne trouve pas que c'est la chose.
Mais en vous installant en France, vous êtes rentré au foyer, comme vous l'avait demandé votre grand-mère.
Tout à fait. J'ai d'ailleurs écrit un poème là-dessus. Oui. Il y a un des livres qui s'appelle « Pour qui sonne Avignon » dans la mémoire à vif, et où je me suis expliqué... Là, oui, elle a vraiment exercé sur moi. Mes parents s'en sont quelquefois étonnés, mais c'est vrai, on ne sait pas la profondeur de l'influence que peut exercer un grand-père ou une grand-mère sur un enfant de très jeune âge. Et alors, ce qui est tout à fait curieux, c'est que ma grand-mère était tourangelle et qu'elle ne me parlait pas de la Touraine, elle me parlait d'Avignon et du comte Avenessin, où elle n'avait jamais mis les pieds. C'était un peu, vous savez, moi j'ai interprété ça comme ça, c'est un peu comme si elle me disait, il faut aller très loin, car tu vois, moi qui étais tourangelle, je suis tout de même monté en exil en Belgique, donc il faut fuir très très loin. C'est très curieux. Et ma première confrontation avec ce sud lointain, c'était l'exode de 40, où j'étais persuadé que plus jamais nous n'en reviendrions, que nous étions installés là de manière définitive. Et quand j'ai constaté que mes parents remontaient vers le nord, c'était le déchirement absolu. Et ce jour-là, j'ai juré que je redescendrais.
Mais je me demande si aujourd'hui vous croyez en français, ou vous avez à un certain moment pensé que vous étiez aussi belge. Je veux dire, est-ce qu'à un certain moment de sa vie, on est telle nationalité ou telle autre ?
Non, pour moi, le problème de la nationalité...
Ah si, il y a le bilinguisme quand même, qui vous avait frappé peut-être au départ, non ?
Je ne sais pas, mais il y a... Si vous voulez, il y a deux choses. D'abord, j'étais attiré par cette France du Sud pour un grand nombre de raisons. Et puis, il y a le problème de la nationalité. Alors là, je me trouve naturalisé français depuis de longues années. C'est pour une raison très simple. J'ai horreur d'être un citoyen privé d'un certain nombre de droits. Je trouve absurde de vivre dans une communauté sans en être membre à part entière. Donc, c'est tout à fait pragmatique. J'ai envie de pouvoir élever la voix sans qu'on me fasse remarquer que un étranger est tenu à une certaine de discrétion. Ce sont des raisons comme ça. Je ne donne absolument aucune valeur sentimentale excessive à la nationalité et de mes origines belges et de celles qui précèdent, parce qu'il semble que la famille ait des racines qui remontent encore bien plus dans le nord, comme le nom l'indique. Et je conserve une conscience et un respect très profond.
Hubert Nissanis, il reste toujours quelque chose des métiers que l'on a exercé. Il y a l'amour de l'écriture, l'amour des mots, l'amour des signes. Je dirais même l'amour des caractères et de l'encre d'imprimerie. Et on le disait tout à l'heure, vous avez connu tout cela depuis la publicité. Et j'ai là devant moi quelques-uns des livres que vous éditez, comme par exemple « Avignon raconté aux enfants » ou « Écrit de Victor Hugo sur la peine de mort » ou « La Camargue racontée aux enfants ». Ce sont des livres que vous éditez, et je le dis avec amour, parce que je le vois dans les caractères, je le vois dans la manière de présenter les choses, dans la couleur de la couverture, et même dans l'épaisseur du papier, ou dans la couleur du papier. Donc l'édition, ça n'est pas seulement un livre, c'est aussi une manière de le présenter.
C'est un travail manuel aussi. Bon, d'abord, je voudrais faire une petite distinction, parce que ce ne serait pas très gentil de ma part de vous laisser dire que j'édite tout ça comme si j'étais responsable unique de tous ces ouvrages-là. En vérité, j'écris et j'anime les éditions Actes Sud, et puis parallèlement, je suis conseiller chez un éditeur d'Avignon, Alain Barthélémy, où j'ai mis au point cette collection régionale de livres consacrés aux enfants. Cela dit, c'est vrai que pour tous ces livres, ceux imprimés, édités chez Barthélémy et ceux de ma collection Actes Sud, il y a un très grand souci de la présentation. Par exemple, pour les livres de la série dans laquelle ont paru les écrits de Victor Hugo, nous avons longuement cherché quel était le format le plus agréable à tenir en main.
Oui.
Et donc la largeur. Et puis à partir de là, quelle était la hauteur la plus heureuse? Et puis alors j'éprouvais un plaisir infini à rechercher longuement les papiers, à faire peut-être la démonstration qu'on peut utiliser de très beaux papiers sans payer tellement plus cher, à rechercher des matériaux apparemment humbles, mais qui sont finalement d'une très grande richesse pour la couverture, et même chose s'agissant des caractères.
Mais comment êtes-vous installé? Parce qu'il fallait également
une installation matérielle.
Oui, matérielle.
Mais on est installé depuis que nous sommes installés en France dans un mas qui est un mas typique de la région, qui est un mas du XVIIIe siècle. Et en face de ce mas, il y a une bergerie. Alors dans cette bergerie, jadis, on mettait les tracteurs, les charrettes, les chartons, et puis aujourd'hui, on fait des livres. Alors on fait des livres, qu'est-ce que c'est faire des livres? C'est faire des maquettes, c'est compulser des manuscrits, c'est les corriger, c'est corriger des épreuves, etc. L'imprimerie se fait à Avignon.
Mais vous êtes combien?
Alors nous sommes deux. Nous sommes deux, là-bas, sur place.
Et vous puis, et votre femme?
Ma femme et moi, oui.
Et alors, c'est un travail de communauté, et c'est, je crois, la vertu de ce travail-là.
Ce qui nous sauve, c'est que la bergerie n'est pas attenante au mas. Donc on va travailler. Il y a un petit espace qui nous sépare du lieu d'habitation, sinon nous y passerions nuit et jour, c'est certain. Mais c'est d'autant plus une communauté qu'alors Christine, ma femme, est illustratrice, et qu'évidemment on l'utilise à plein. À chaque fois qu'il y a des illustrations à faire, et pourvu que ce soit de sa compétence, c'est elle qui le fait. Et elle intervient dans la... Pour quelle part? Dans la conception des livres? Mais vraiment, non, on travaille ensemble, comme ça. On a des amis qu'on consulte beaucoup. On est très attentif au regard des autres. On les fait venir, on va chez eux. Et ce mode-là de travail, je me rends compte, fait de moi un individu extrêmement privilégié.
Mais vous
n'avez très conscient.
Mais vous n'avez pas eu envie, Hubert Nissen, d'avoir près de vous, dans cette bergerie, une presse?
Si, commandant, c'était mon rêve.
Mais alors, pourquoi pas?
Mais parce que c'est pas concevable aujourd'hui. Il y a des impératifs économiques. Vous pouvez pas avoir votre presse et faire 5 000 ou 10 000 exemplaires d'un livre. Ou alors j'aurais dû m'orienter vers une forme d'édition tout à fait artisanale. Mais là, vous avez mis le doigt sur une de mes plus vieilles utopies, et que j'ai définitivement abandonné parce que c'est pas concevable.
Mais... Parce que c'est vrai, vous êtes installé d'une manière très artisanale quelque part, mais vous faites quand même le voyage à la ville.
Oui, je fais le voyage à la ville. la ville.
Et pour aller rencontrer l'imprimeur.
Absolument, absolument. Nous allons à Avignon.
Mais pour demain, on ne pourrait pas imaginer une édition différente où vous auriez la presse, mais avec peut-être des artisans, enfin...
Bon, alors je vous dirais que de toute manière, les rapports que nous avons instaurés avec notre imprimeur en Avignon sont tels... que ce problème, cette perspective ne se pose plus. Et quand vous dites que je vais à la ville, c'est vrai, mais en fait, je vais d'abord chez un ami. Et comme il se trouve, et ça c'est le côté, si vous voulez, tout à fait surprenant que peut revêtir une vie décentralisée comme ça, il se trouve que notre imprimeur, c'est aussi, c'est en même temps les éditions Barthélémy. Et non seulement je vais à Avignon pour faire imprimer mes livres, même trouvant là... J'assure la direction de certaines collections de cette maison d'édition. Donc, bon, il n'y a pas... Nous ne formons pas une même société, nous ne sommes pas réunis par un identique statut juridique, mais nous sommes en telle entente, en telle osmose, il y a de telles affinités que c'est un peu comme si j'avais réalisé ce vieux rêve d'avoir les presses. Simplement, elles ne sont pas chez moi, elles sont chez lui.
Mais Hubert Nissen, vous pensez que c'est là l'avenir ? Enfin, nous connaissons beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui sont partis s'installer quelque part en province pour réaliser leur vraie vie. Par exemple, les éditions Verdier.
Oui, on en parlait, elles sont des gens très bien.
Ils ont déjà, par exemple, édité 5 livres qu'ils ont présentés à la fois.
Vous savez, moi, je ne crois pas aux réponses absolues. Oui. C'est peut-être pas la solution, mais c'est une des solutions. Et j'en témoigne. Oui. Je m'y retrouve. Où j'y trouve... une forme de satisfaction, un certain bonheur qui la justifie comme solution. De là à l'imposer aux autres, non.
Mais encore faut-il savoir quelle littérature on veut offrir.
Exactement.
Alors, vous aviez décidé quoi, vous ?
Moi, j'ai décidé de me cantonner, pour un temps assez long en tout cas, dans une littérature de type, disons, sociologique. Je ne publie pas que des ouvrages sociologiques, mais j'ai souhaité... Bon, je vais le dire autrement, parce que je crois que c'est important, ce point-là. Fréquentant beaucoup les universitaires et les universités, je me suis rendu compte qu'il y avait quantité d'études, de recherches, de thèses qui avaient été faites et qui étaient absolument victimes d'un renfermement, d'une méconnaissance pour un certain nombre de raisons. D'abord, généralement rédigées dans un langage assez ésotérique. D'autre part, et pour des motifs parfaitement concevables au niveau universitaire, encombrées de démonstrations et d'appareils scientifiques extravagants, alors que ces ouvrages contenaient des réflexions et des idées tout à fait intéressantes. Je me suis dit, si on créait une collection dans laquelle on pourrait publier des ouvrages qui seraient soit des synthèses, soit des réflexions à partir d'une thèse. Et c'est ce que nous avons fait. Il s'est trouvé, ça c'est notre collection principale, il s'est trouvé qu'à un moment donné, des gens de théâtre sont venus me voir, vous l'avez dit vous-même, j'avais fait du théâtre jadis, j'y ai donc été très sensible, et nous ont dit, on n'a plus d'éditeur, le Festival d'Avignon arrive, on a des créations, est-ce que tu peux nous aider ? J'ai dit oui, j'ai publié du théâtre. Bon, je sais pas si je continuerai. Je publie une pièce de théâtre chaque fois qu'il y en a une qu'on m'offre, qu'elle me plaît, qu'il y a possibilité de la vendre, parce qu'on ne vend pas facilement du théâtre. Bien. Je voudrais faire du roman. Je voudrais publier de la poésie, mais je ne suis pas fou. Si je publie de la poésie actuellement, je sais très bien qu'il faudrait que je la fasse à compte d'auteur. Et moi, j'aime pas le compte d'auteur pour moi-même, je n'en veux pas pour les autres. Alors je cherche désespérément, je voudrais trouver une solution pour que ce pays où il y a un nombre extraordinaire de poètes et où finalement on s'intéresse très fort à la poésie dès lors qu'on la propose aux gens de manière active, il suffit de lire un poème quelque part, enfin, les gens s'en prient, mais les gens n'achètent pas la poésie. Alors tant qu'on n'a pas résolu ce problème, je ne peux pas le résoudre à mon échelle et moi tout seul, je ne publierai pas de poésie. Je voudrais pouvoir publier du roman, mais vous le savez beaucoup mieux que moi. Il faut publier le roman à Paris ou avec des moyens parisiens. Il y a tant de romans qui paraissent aujourd'hui que pour en imposer un, il faut déployer une force considérable. Il faut lui frayer son chemin, de telle sorte que si je me mettais à en publier dans mon petit village là-bas, ben je devrais y consacrer la totalité de mes forces. Ce n'est pas possible.
Donc vous n'êtes pas de ceux qui pourraient aiguiser l'espoir de tous ceux qui peuvent écouter en ce moment, qui se disent « Enfin, j'ai envoyé des livres, je les ai adressés à des éditeurs, ils m'ont répondu, votre livre est très bien, mais il ne correspond pas du tout à notre édition. » Bon, attention, dans tout ce qui est écrit, forcément, tout ne peut pas être publié, il faut également le savoir.
Il faut le savoir.
Il ne faudrait pas faire de folles promesses.
Mais je vous dirais que J'étais très frappé de constater que... Bon, nous recevons beaucoup de manuscrits.
Mais on pourrait beaucoup publier,
c'est certain. Mais je voulais vous dire que parmi les manuscrits que je reçois, finalement, très peu de gens m'envoient des romans. Et quand on m'envoie des romans, c'est généralement des romans qui ont été refusés 10 ou 15 fois. Mais les gens ont compris que si on veut... si on veut faire du roman, il faut le faire à Paris. Au niveau de la publication, au niveau de l'édition. En revanche...
D'ailleurs, vous tombez dans le piège, vous-même, Hubert Nissen, car La mer traversée, qui est votre roman, vous ne le publiez pas chez vous, vous le publiez chez Grasset.
Oui, d'abord, je...
Ben oui, alors là, vous revenez à Paris.
Mais bien sûr, mais vous me dites ça comme si... et vous employez l'expression « tomber dans un piège », mais je ne tombe pas du tout dans un piège.
Mais pourquoi ne pas publier chez vous?
D'abord... Ce roman n'est pas le premier.
Ouais,
et Grasset, mon éditeur, donc, et je lui ai confié, je suis lié à lui par contrat, et ensuite, je trouve tout à fait normal, étant content de ses services, de lui confier les autres livres. Et je trouve normal qu'un roman soit publié à Paris, parce que seules les maisons parisiennes sont équipées pour défendre du roman. Et ça me paraît une raison tout à fait suffisante. Je ne crois pas à l'héroïsme inutile en littérature. Je crois que se casser la gueule comme ça pour avoir envie de... Non, ce n'est pas possible.
Mais au village où vous êtes, là où vous avez votre masse et la bergerie, comment vous regarde-t-on? On sait le travail que vous faites.
Non, absolument pas. Alors là, oui, on le sait.
Mais il n'y a pas une curiosité quand même
dans le village.
C'est peut-être de votre faute aussi. Avez-vous essayé, vous qui êtes l'homme de la communication, justement de dire ce que vous faites?
Oh oui, j'ai essayé, mais j'ai un ennemi terrible. Et c'est la télévision. C'est terrible, j'ai essayé
on
d'organiser...
On peut pas être la télévision, vous savez.
Mais...
Organiser dans l'après-midi, le dimanche,
mais il travaille, c'est pas possible. Non, je vous dirais qu'ils sont gentils comme ça. Ils me disent, tiens, dans le journal, on a vu qu'on parlait de vous. Alors, ils sont contents. Mais ils sont heureux pour moi. Et ça, ça me touche beaucoup. Ils sont solidaires, si vous voulez. Puis, il y en a qui m'achètent les livres, qui viennent, parce qu'on a un petit comptoir de vente dans le Mas, ils viennent acheter des livres. Mais, si vous voulez, ils ne s'intéressent pas au Paris, qui est celui des éditions. En revanche, la région s'y intéresse. Alors là, j'étais très sincèrement et très agréablement surpris
c'est
de voir...
C'est quel côté, en fait quel est le village c'est On parle d'un village et...
Le village s'appelle le Paradou. Et alors là, pour commencer, c'est déjà le lieu de tous les malentendus, parce que les gens disent « Ah, chanceur que vous êtes, le paradis, etc. » Monstrueuse erreur. Le Paradou, ça ne veut pas du tout dire le paradis. Ça veut dire le moulin à Foulon, c'est-à-dire que ça désigne un lieu de travail et de travail à la fois humble et dur. Alors ça me plaît beaucoup, parce que ça me permet de retourner la situation et de dire aux gens non, c'est pas un lieu de retraite, non, c'est pas un lieu paradisiaque, ou du moins dans le sens où vous le croyez, c'est un lieu où on essaye de faire un certain nombre de choses, c'est un lieu d'effort, c'est un lieu de travail, c'est un lieu de réflexion, compte tenu de tous ceux qui viennent nous voir et qui, d'une manière ou d'une autre, participent au travail avec nous. Alors la région, c'est celle de... Région de programme, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Région au sens plutôt du pays, c'est la Basse-Provence, c'est le delta du Rhône, c'est la Camargue, c'est Marseille-Aix, etc. Et là, j'ai rencontré vraiment une très grande ouverture et un soutien. Cette région est une région qui essaye de favoriser l'activité intellectuelle. C'est quelquefois un peu maladroit, c'est quelquefois un peu insuffisant, mais tout de même, des efforts considérables sont consentis et à bien des égards, j'ai été aidé par eux.
Vous publiez combien de livres chaque année?
Attention, d'abord, il y a à peine plus de 2 ans que nous existons comme éditeur à part entière et nous étions partis sur un programme de 6 livres par an et je crois que nous allons arriver au rythme de 12 par an comme nous sommes partis. Vous savez, je suis venu à Paris, là je repars avec 3 manuscrits et j'ai l'impression que c'est 3 bons manuscrits et si c'est 3 bons manuscrits, je les publierai cette année et mon quota passera de 10 à 13 pour cette année.
Mais vous serez toujours fidèle à l'originalité d'une collection
Et je vais essayer.
Parce que vous pouvez vous laisser emporter comme les autres par vraiment la publication, je dirais presque à outrance.
Vous avez parfaitement raison.
C'est le grand plongeon. Hein.
C'est la même discussion. Chaque fois que je reviens de Paris, je dois faire effort pour ne plus me placer en situation directement concurrentielle avec Paris. Il est certain qu'en choisissant d'être éditeur en province, j'ai aussi choisi un certain rythme, une certaine discrétion. Et qu'à vouloir tout à coup me laissant prendre dans l'effervescence parisienne, entrer en concurrence avec les plus actifs, je me casserai la figure à coup sûr. Alors, bon, la barre à laquelle je m'accroche, c'est essentiellement le choix des sujets. C'est très simple d'une certaine manière à définir. Je cherche, quel qu'en soit le sujet, des livres écrits avec passion, savoir, mais qui sont telles que, la dernière page refermée, le lecteur n'ait pas l'impression que c'est terminé, tout le savoir est dans le livre, la question est entendue. Non, je veux des livres qui, la dernière page tournée, propulse véritablement le lecteur dans une réflexion personnelle sur le sujet qui lui a été proposé. Ça, c'est le critère fondamental.
Ce qui me paraît important aussi, Hubert Nissen, c'est le fait de l'édition régionale. C'est-à-dire, on le sait depuis longtemps, et une région, c'est quand même le lieu d'où l'on peut regarder très fidèlement le monde qui bouge.
Oui, et d'une certaine manière...
Voir les événements.
Je crois qu'on peut les voir... Peut-être, et en certaines circonstances, mieux qu'à Paris, dans la mesure, si vous voulez, où il n'y a pas ce brouillard qu'il y a sur toute ville, ce brouillard... Je ne veux pas employer le mot pollution, non, non, c'est une tarte à la crème, mais ce brouillard d'informations, véritablement, bon, quand je suis à Paris, moi, je suis très frappé, les transistors crépitent de toutes parts, il y a des bulletins d'information à tout moment, avant notre émission ici, crac, il y avait un bulletin d'information, etc. C'est une chose que nous ne connaissons pas, là-bas.
Vous n'écoutez pas la radio, vous ne regardez pas la télévision?
Nous regardons la télévision, et nous écoutons des programmes à la radio, mais nous n'avons pas cette espèce de hantise de la prochaine information. Alors, on regarde peut-être le monde avec une perspective un peu plus nette. Seulement, il y a un gros danger à l'activité régionale, c'est qu'on est très vite pris pour un régionaliste. Or, je tiens à dire haut et clair que je suis totalement adversaire, en tout cas pour nous, d'une forme de régionalisme que j'assimile à l'anthropophagie, parce que profiter des valeurs culturelles locales pour les faire consommer aux locaux, ou bien aux Parisiens qui viennent en vacances, je trouve ça odieux. Je trouve ça odieux. Il y a des valeurs locales, régionales, qui sont superbes, mais grand Dieu, servons-nous de ces valeurs pour montrer qu'elles ont un caractère universel.
D'ailleurs, il ne s'agit pas de rétablir des frontières à l'intérieur de nos régions.
C'est
ce qu'on fait souvent,
je sais bien.
Croyant d'ailleurs bien faire. Alors prenons l'exemple de votre édition, les éditions Actes Sud, et votre collection Espace-Temps. Alors je prends un seul livre, ce sont les écrits de Victor Hugo sur la peine de mort, qui sont présentés par Raymond Jean. Je voudrais savoir à combien... d'exemplaires, vous tirez un ouvrage comme celui-là?
5 000.
5 000 exemplaires.
Mais je sais que c'est un tirage initial. Si vous voulez, nous avons calculé quel était le tirage minimum à faire pour atteindre un prix raisonnable et en même temps ne pas courir de risques excessifs.
Avec quel prix?
Le prix de vente?
Oui.
Eh bien, ce livre doit se vendre, vous savez qu'il n'y a plus de prix.
Oui, alors justement, c'est pour cela que je vous interroge. Quel est le problème, justement, cette libération des prix?
Oh, pour nous, c'est une embrouille épouvantable, parce que nous ne dominons plus vraiment notre marché. Dominer au sens de la connaissance, nous ne savons plus où nous allons. Et d'autre part, on ne sait pas ce que les libraires vont faire des petites maisons d'édition. Est-ce qu'ils ne vont pas essayer de gagner beaucoup d'argent sur un seul exemplaire, donc vendre très cher, sous prétexte qu'on n'a pas une grande rotation? Normalement, un livre comme ça doit se vendre autour de 50 francs, plutôt moins que plus.
Vous trouvez que c'est beaucoup?
Ah, moi, je trouve que c'est trop cher. Je rêve de faire des livres beaucoup moins chers.
C'est
ceci
possible.
Dit, quand on compare...
Mais est-ce possible? Il ne faut pas rêver seulement.
Bah justement, c'est pour ça que je l'ai fait à ce prix-là. C'est parce qu'à moins de prendre une qualité style poche, et c'est pas l'esprit de ces livres-là. Cela dit, si vous faites des comparaisons, c'est pas un livre cher. C'est pas un livre cher, mais je trouve tout de même qu'en être arrivé à un point où un livre de ce calibre-là, bon, il n'est pas mince, mais tout de même, coûte 52 francs ou 50 francs, 48 francs, je trouve ça cher, dommage.
Mais Hubert Nissen, on va rêver un tout petit peu. Vous avez publié un livre d'Henri Mandras, Voyage au pays de l'utopie rustique. Mais parlons de l'utopie littéraire. Vous êtes éditeur, vous êtes installé en Provence, vous publiez une douzaine de livres chaque année, enfin, c'est ce que vous allez faire. Peut-on imaginer un avenir qui serait complètement différent? Vous êtes éditeur et vous avez, par exemple, des représentants qu'on appellera colporteurs. Et ce sont ces gens-là qui, animés d'un amour fou pour la littérature, vont faire aimer les livres que vous avez aimés et qu'ils aiment à tous ceux qui se trouvent un peu aux quatre coins de la France. Est-ce que ça n'est pas pour demain la seule occasion de rencontre et de communication qui sortirait vraiment de tout ce qui est envoyé aux libraires? Et encore, vous savez que sur 24 000 points de vente, il y a, paraît-il, 300 libraires qui font très bien leur travail. Et il y a tous les autres qui sont, il faut bien le dire, complètement occupés par ce qu'ils reçoivent de tous les auditeurs. Ils ne peuvent pas s'en sortir.
Mais c'est évident ce que vous dites.
Mais c'est fou.
C'est fou. Mais nous l'avons essayé.
C'est bon d'être fou.
Mais nous l'avons essayé. Mais très rapidement, on s'est aperçu, qu'est-ce que vous voulez, le temps qu'on perd à convaincre un libraire qui a cessé d'être un libraire, un vrai libraire, il faut aussi qu'il puisse se nourrir. Les gens qu'on envoie comme ça dans la nature, porter la bonne parole. le bénévolat, c'est pas possible.
Alors il y a, bon, parce qu'on y revient, ce voyage au pays de l'utopie rustique, j'en parle parce que le sujet d'abord est intéressant. Ça se passe en 2007, c'est-à-dire dans quelques années seulement, et un monsieur qui s'appelle Alexis arrive de son pays d'Asie pour visiter le pays de l'utopie rustique. Alors, j'ai l'impression que ce pays de l'utopie rustique, vous seriez ravi de l'installer. Alors, est-il possible ?
Je serais ravi de l'installer. Oui, il me séduit assez. Il me séduit assez, je crois qu'il
si
est aussi...
Si la culture comme fondement de la société, c'est un rêve.
Certainement. Certainement. Seulement, c'est un essai qui est un prétexte à analyse et critique. C'est écrit d'ailleurs de manière très souriante et ça me plaît beaucoup de ce point de vue-là. Enfin, il faut bien dire que dans le contexte actuel, c'est une chose parfaitement impossible. Et qu'étant impossible, je crois qu'il y a des rêves dangereux, si vous voulez. Je crois qu'il y a des rêves dangereux, et vouloir un certain type de société alors que, de toute évidence, la situation actuelle ne le permet pas. Je crois que c'est dangereux parce que ça nous fait décrocher des réalités. Il faut tout de même réfléchir sur le monde d'aujourd'hui. On ne peut ignorer ni notre région, ni l'Orient, ni l'Afrique. C'est très important d'être conscient de ce qui se passe aujourd'hui. Je crois qu'il y a certains rêves qui peuvent être extrêmement pernicieux. Cela dit, le livre d'Henri Mindras, Le voyage au pays de l'utopie rustique, il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire avant tout une forme littéraire qui a permis à l'auteur d'exprimer un certain nombre d'analyses et de critique qu'il n'aurait peut-être pas pu exprimer avec autant de finesse dans un ouvrage de caractère scientifique.
Je voulais dire par Hubert Nissen, je voulais vous demander si vous étiez d'accord sur les livres que vous publiez. Êtes-vous tout à fait en communion de cœur avec ce qu'écrivent vos auteurs ?
À peu près totalement.
Vous ne laissez pas publier le contraire, ou bien vous avez cette tolérance qui va vraiment sur tous les terrains et qui engage le combat sur tous les fronts ?
Je crois que je suis prêt à éditer le livre de quelqu'un qui ne pense pas du tout comme moi, mais il faudra alors comme garantit la certitude qu'il y a entre le sujet et l'auteur une relation profondément vraie. Je veux dire, il faudra que le livre soit un livre honnête.
Oui.
Cela dit, comme mes moyens sont petits, mon programme limité, je donne tout de même la préférence, et jusqu'ici, je n'ai publié que cela, à des livres qui correspondent profondément à mes convictions.
Alors maintenant, il y a l'autre plateforme, qui est celle du roman. Ce sont vos romans, Hubert Nissen. Alors, il y a, par exemple, Le nom de l'arbre.
Oui.
Et vous remplacez toujours Le nom de l'arbre par ce qui est votre amour à le remplacer. Alors, quel est aujourd'hui le nom de votre arbre ?
Je pense que je me demanderai quel est le nom de l'arbre au dernier jour de ma vie. C'est absolument certain. Je vous l'ai dit au commencement.
Non, parce que l'arbre, c'est l'écorce, c'est l'enfant, c'est le malentendu des adultes.
C'est le malentendu des adultes. Mais je ne sais pas quel est le nom de l'arbre. Et je pense que l'ampleur de la question, l'ampleur même de la question en fait le prix. Je pense que l'authenticité d'une interrogation a souvent plus de prix et plus de valeur que la réponse qu'on pourrait y donner. Je pense que le fait de se demander quel est le nom de l'arbre, c'est infiniment plus important dans certaines circonstances que de savoir quel est le nom de l'arbre. Et d'ailleurs, je crois que de savoir quel est le nom de l'arbre, c'est quelquefois le commencement du malentendu. J'ai d'ailleurs pris ce titre, j'ai emprunté ce titre, si vous voulez, les mots sont pris dans une citation de Brice Parrain, dans un livre où précisément il essayait de mettre en valeur, ou en lumière plus exactement, l'affreuse incertitude qui sépare les mots de ce qu'il cherche à désigner.
Mais vous revenez toujours à vous-même dans tout ce que vous écrivez. Bon, on dépasse maintenant le nom de l'arbre pour arriver à la mer traversée. La mer traversée, c'est l'histoire. Bon, il est d'abord un narrateur. Il s'appelle Jean, je crois.
Il s'appelle Jean.
Il est ethnologue. Il travaille, vous l'avez fixé, en Afrique. D'ailleurs, vous revenez de l'Afrique.
Je reviens du Mali.
Et il y a une relation, là ?
Oh, il y a une relation, c'est pas tout à fait le Sahara, mais oui. J'ai éprouvé un grand bonheur à repasser par le Sahara pour aller au Mali.
Donc, votre narrateur travaille en Afrique, et ce qui me paraît important, c'est qu'il a rompu avec la société européenne. Et d'une certaine manière, vous aussi, vous avez, non pas fui, mais vous avez quitté et les villes et les grands brouillards.
Oui, mais vous soulevez là le problème de l'autobiographie.
Vous avez rompu avec les discours, disons.
Oui, j'ai rompu avec les discours. Alors, Prenons l'exemple de la mer traversée parce que je préfère vous répondre par des exemples concrets que par l'énoncé de grands principes. Il est vrai que la position du narrateur qui se trouve au Sahara et qui regarde ce qui se passe en Europe, cette Europe avec laquelle il a rompu à travers toutes sortes de filtres, ça correspond un peu à ma position de sédentarisé en Provence qui regarde ce qui se passe dans les villes. Il est vrai, par exemple, puisque ce livre est entre autres nourri d'une grande correspondance entre le narrateur et son père, il est vrai que j'ai avec mon père une correspondance extrêmement suivie, quasiment hebdomadaire. M'écrit des lettres admirables, exceptionnelles. Je crois que peu d'individus reçoivent des lettres aussi belles de leur père. Mais il n'y a pas un mot de ces lettres dans la correspondance qui a nourri ce livre-là.
Il y a quand même l'idée, parce que je vous lis celle dès le départ.
Oui.
Mon père, c'est le narrateur qui parle.
Oui, c'est le narrateur.
Alors je ne dis en aucun cas que c'est vous, mais je savais que vous étiez ainsi aussi. Mon père m'écrivait en effet de manière si méticuleuse que chacune de ses lettres, en plus des nouvelles familiales qu'elle me donnait, m'a porté les relents d'une société avec laquelle j'avais rompu quelques années plus tôt. Et vous venez de dire, vous, très précisément, que votre père, aujourd'hui encore, vous écrit.
Absolument.
Comme écrivait le père de Jean. Donc, en fait, l'exil que vous êtes donné, qui est un exil très beau, qui ressemble à un paradis, même si le nom du village n'est pas le paradis, c'est l'exil qui vous permet d'être avec vous-même, enfin.
Oui, qui me permet d'être avec moi-même et probablement, et ce n'est pas le moins important...
Et les liens ne sont pas rompus.
Et d'avoir une perspective plus nette.
Oui.
Parce que, d'un point, non pas plus élevé, mais plus lointain, par conséquent, le champ de l'horizon est plus vaste. Je crois que c'est important, ça. Cela dit, pour le caractère autobiographique des romans, vous comprenez, quand le nom de l'arbre a apparu, on m'a dit « c'est autobiographique ». Tout de même, je ne pouvais pas le nier. Quand la mer traversée a apparu, on m'a dit « c'est autobiographique ».
Alors,
je pouvais pas
quelle
le nier.
Serait la
le troisième mer traversée va aussi être autobiographique.
Isabelle Ragonneau, troisième.
Des arbres plein la tête. Mmh. Mais les trois livres sont différents. L'histoire n'est pas du tout la même. Alors, cette autobiographie, elle est vraie dans un certain nombre de relations. Je crois que vous avez très bien défini la chose. C'est la position de l'individu par rapport aux autres. Mes romans sont autobiographiques dans la mesure où je m'efforce d'y restituer une position que j'ai cherché à prendre par rapport aux autres. Et mes romans sont faits entièrement des interrogations qui adviennent ensuite. Ça, c'est la part autobiographique. Mais l'événement, l'anecdote, le destin des héros...
Oui, mais lorsqu'un lecteur s'engage dans un livre, il a envie d'en savoir un peu plus, c'est l'auberge espagnole. Il a le droit, en plus, d'imaginer tout à fait. Alors, vous installez un autre personnage. On vient de parler du narrateur, on vient de parler de son père, mais il y a également un personnage tout à fait à part, c'est Adrienne, c'est la mère du narrateur. Alors elle, Adrienne, elle est toujours habitée par un événement tragique, extraordinaire, qui est le naufrage, je crois que c'est en 1912. Hein,
en 1912, le naufrage
du Titanic.
Oui.
Alors là, on peut se demander pourquoi vous êtes remonté au Titanic et quel est ce tragique pour vous, et votre mère existe.
Oui, et c'est elle qui, la première, m'a parlé du naufrage du Titanic. Donc, le point de départ, là, nouveau, se prend dans la réalité.
Ouais.
Si vous voulez, ce qui m'a... Bon, il est évident que le naufrage du Titanic est sans doute, au niveau des représentations symboliques, la catastrophe qui a le caractère le plus annonciateur de toutes les catastrophes du début de ce siècle.
Voilà.
Bon, moi, ce roman, j'ai mis 3 ans à l'écrire. Je l'ai remis à mon éditeur il y a un peu plus d'un an. Il sort, et puis tout à coup, qu'est-ce que je vois? C'est que Luciano Berio crée à Lyon un opéra appelé Opéra, dans lequel il y a un triangle, la destruction du Titanic, et Orphée et la folie. Chez moi, c'est Oedipe et la folie et le Titanic. Et les journaux aujourd'hui, je crois que Paris Match de la semaine dernière, d'autres journaux avant, n'en ont plus que pour le Titanic. Alors tout à coup, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une convergence. Et je tombe là-dedans comme si je m'en étais servi.
Mais je crois que c'est le récit d'une hallucination. Et je crois que c'est l'explication pour des tragédies de demain.
Oui.
Je crois que toute l'idée de ce qui peut se passer aujourd'hui, pourquoi on porte ce tragique de 1912 ainsi à l'actualité, c'est parce que c'est, on ne voudrait pas dire l'annonciation de quelque chose.
C'est pourtant ce que j'ai fait dire à mes héros dans le livre. En tout cas, Adrienne considère que le naufrage du Titanic est absolument annonciateur et tout à fait exemplaire des punitions qui nous sont promises, car il y a cette notion de péché qui est absolument liée...
Il y a aussi le père qui craint pour sa ville. Et et beaucoup craignent. Et il y a de nombreux livres qui sont venus en librairie. Il y a le livre dont je parlais l'autre jour de Jean-Marie Leduc qui annonce vraiment des choses terribles qui vont se passer entre l'an 2000 et 2030. Il y a également, je recevais l'autre jour Michel Morois, la fille d'André Morois, qui avait écrit un livre en 1927 qui prévoyait aussi vraiment des cataclysmes, des apocalypses. Alors on peut se demander si vous ne craignez pas plus encore, vous, plus que l'apocalypse, la cupidité et l'avidité des hommes.
Je redoute cela beaucoup plus, car finalement, la catastrophe, si vous voulez, en tant que telle, ne m'intéresse pas tellement. Si je l'ai introduite, c'est parce que je m'en suis servi. D'abord, il n'y a de catastrophe que celle du Titanic. Et la transformation de la ville n'est pas ressentie comme une catastrophe par tout le monde dans ce livre.
Mais non, parce que la transformation de la ville, ça peut être une transformation, c'est-à-dire un progrès.
Et ça peut être une renaissance.
Une renaissance.
Une renaissance. Mais j'avais envie, je me sentais plus que l'envie, le besoin d'écrire un livre sur les événements importants de notre époque, et tout de suite le choix s'est présenté à moi comme une sorte de dilemme. Ou bien je fais un roman très réaliste qui prend appui sur des événements d'aujourd'hui, ou bien je vais chercher les événements dans des représentations symboliques ou des expressions de la mémoire. Et c'est comme ça que je fais agir mes personnages, en fonction de souvenirs, d'archétypes, de rêves qu'ils ont faits, beaucoup plus qu'autre chose. Et comme l'a dit mon éditeur dans le prière d'insérer du livre, j'ai préféré le baroquisme du rêve et son symbolisme à la minutie d'un certain réalisme.
Mais Hubert Nissen, admettons qu'il y ait l'apocalypse, y aura-t-il quelque part des îles, ou même pas des îles, des icebergs qui se promèneront et qui porteront le destin de chacun d'entre nous?
Mais moi, je crois qu'il est très important d'abord d'être chacun une île. Vous savez, les
Anglais
disaient ça.
Nous sommes d'ailleurs chacun une île.
Each man is an island. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans cette période où non seulement les dangers sont grands, mais où ils sont augmentés par l'organisation de l'incertitude et de la frayeur, il est très important que nous portions en nous des îles de sérénité, d'espérance, de savoir, de réflexion, d'interrogation, parce que c'est ça qui peut survivre, qui peut rester si jamais quelque chose nous engloutit. Dans la mesure où un homme survivrait, c'est les îles qu'il porterait en lui, cet archipel qu'il porterait en lui, qui serait le départ d'un nouveau règne.
Vous avez l'impression d'avoir traversé la mer ?
D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière.
Tout est donc fini ?
Non, j'ai traversé la mer pour aborder un rivage où j'ai entrepris un travail qui me remplit de satisfaction.
Mais cette fois-ci, c'est l'île, votre petit village, votre bergerie.
Je me suis toujours...
Vous êtes encore capable de changer ? Est-ce que vous avez changé si souvent ?
Je suis capable de changer, mais quelque chose m'informe par toutes mes fibres que mes racines ont commencé à s'enfoncer très profondément dans le sol. D'autre part, n'oubliez pas que mes enfants sont nés là-bas, ils sont contemporains de mon déplacement là-bas, et leurs racines personnelles me sont très importantes. C'est une grande joie de voir ma fille et mon fils s'épanouir en ce lieu, se créer leur propre monde. Et de cette manière-là, et à travers eux, je me sens terriblement sédentarisé.
Mais Hubert Nissen, seront-ils, eux, par exemple, vos enfants, des éditeurs? Parce que vous pourriez avoir conscience d'installer une famille, d'installer une édition qui serait comme un héritage. C'est-à-dire une continuité.
Il est très difficile de le dire actuellement. Il pourrait le faire. Mon fils ne cesse de me répéter qu'il a envie de devenir physicien, mais qu'il reprendra les éditions, parce que ça l'intéresse fortement. Quant à ma fille, elle a envie de devenir luthière. Et les éditions, ça ne l'intéresse pas du tout, apparemment. Alors, c'est l'incertitude.
Mais où êtes-vous le plus heureux dans la confection d'une édition, c'est-à-dire le prêt-à-porter d'un livre? Et je le dis avec, non pas d'une manière péjorative,
non, je vous entends
avec
bien.
Beaucoup d'amour. Et, ou alors dans l'écriture d'un roman, parce que ce sont quand même deux univers totalement différents. Un homme qui écrit est un homme seul. Un homme qui fait écrire les autres est un homme accompagné.
Ce sont deux satisfactions, deux joies d'un caractère tout à fait différent, mais c'est certainement l'écriture des livres, de mes livres d'une part, et la publication des livres des autres qui constituent les moments les plus importants de ma vie. Et je veux dire par là que les moments les plus effrayants de ma vie sont ceux où mes propres livres sont édités. Ça, c'est la période alors que je déteste entre tout. À partir du moment où un de mes livres va paraître, je vis dans une anxiété et une insatisfaction très grande.
Nous n'avons pas parlé d'un autre de vos livres, enfin, que vous n'avez pas écrit, mais qui est chez vous. De quoi se mêlent les urbanistes ? Oh, c'est un pamphlet ?
C'est un livre, c'est mieux qu'un pamphlet, c'est un livre d'interrogation d'un homme qui interroge les autres en fonction de cette interrogation qui fut un moment la sienne. Qu'est-ce que c'est qu'un urbaniste ? Comment ça se juge un urbaniste ? Est-ce que ça se juge à la longueur des avenues tracées, à la hauteur des bâtiments élevés ou à la résistance organisée chez les habitants pour qu'ils n'acceptent plus d'être logés dans les bâtiments quelquefois parfaitement inhumains qu'on leur réserve ?
Et comment ça se juge un homme ?
En l'écoutant. Être à l'écoute, je crois que c'est ce qui est le plus important.
Je rappelle le nom de mon invité aujourd'hui, Hubert Nissen. Je rappelle qu'il est éditeur, ses éditions Actes Sud. Je dis aussi qu'il est romancier. Il s'est un peu trahi lui-même, puisqu'il est allé chez un grand éditeur, en suivant vraiment, en étant fidèle, puisqu'il y était déjà. Je rappelle le titre de votre dernier roman, qui paraît donc chez Grasset, « La mer traversée ».